Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Herzlich willkommen zur Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Heute mit einer Ursendung über die Grande Dame der elektronischen Musik, Eliane Radic, Jahrgang 1932, eine Pionierin, eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ein Vorbild für viele Musikerinnen und Komponisten bis heute. Ende der 1950er Jahre erlernte Eliane Radic die Musique concrète, bei deren Erfinder Pierre Schaeffer. In den 1960er Jahren arbeitete sie als Assistentin von Pierre Henry, dann ging sie radikal eigene Wege. Rund 30 Jahre lang arbeitete sie ausschließlich allein mit dem Modular-Synthesizer ARP 2500. Um die Jahrtausendwende begegnete sie dann dem Cellisten Charles Curtis und sie begann, für akustische Instrumente zu komponieren. Von einer Einzelgängerin wurde sie zum Zentrum einer eingeschworenen Gemeinde aus Musikschaffenden, die ihre Werke mitentwickeln, aufführen und ihre Philosophie teilen. Schwebend, sehr fein, präzise und vor allem extrem langsam. So entwickeln sich ihre Klangflächen. Sie lassen andere Bewusstseinszustände erahnen, aber auch die Energie einer sehr zielstrebigen Frau. Im Privatleben war Eliane Radic mit dem Maler Armand verheiratet. Sie bekam drei Kinder mit ihm, die sie nach der Trennung in den 1960er Jahren allein großzog. Durch die Unterstützung ihres Ex-Mannes blieb sie finanziell unabhängig und konnte sich so kompromisslos ihrem musikalischen Schaffen widmen. Für die heutige Sendung hat Clarisse Cosset ausführlich mit Eliane Radic gesprochen. Ihre Worte erscheinen im französischen Original, eingebettet in ihrer Musik, sodass sie selbst Teil des musikalischen Flusses werden. Nach einigen Minuten gesellt sich die Stimme von Charles Curtis hinzu. Er spricht auf Deutsch über seine Zusammenarbeit mit Eliane Radic und über seine Wahrnehmung ihrer Musik. Hören Sie als Ursendung Le Grand Partage von Clarisse Cosset.
un souvenir très 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 ancien. Et mon premier souvenir, qui peut être un souvenir de ma petite musique intérieure, était d'être sous ce qu'on, vous savez, dans les jardins, quand les rames de haricots qui sont mises. Et où enfant, enfin oui, enfant bien entendu, j'avais la taille qu'il fallait pour pouvoir aller là-dedans avec mon nounours. C'était pas vraiment des chants, mais c'était des mélopées tristes qui me faisaient pleurer. Alors je pleurais sur les mélopées tristes que je... Et donc, je sais pas quel âge j'avais, mais enfin, on ne devait pas être bien grande quand même. Mais après, ça allait mieux, voilà. Alors c'est peut-être le début. Et puis bon, j'étais attirée, j'ai très vite été attirée, évidemment, par les instruments de musique, par contre, très vite. Et là encore, j'ai eu de la chance d'avoir la mère d'une de mes amies qui a compris ma passion et l'a très largement favorisée en me présentant le professeur de musique de sa fille. C'est une dame à laquelle je dois vraiment tout, Madame Roger, qui m'a tout appris. Vraiment, ça a été une femme extraordinaire, dont je garde un souvenir très ému et ébloui. Pas véritablement cela. Le déclic s'est fait dans les années 50, alors que traficotait avec l'écriture sérielle de décaphonique, mais qui était assez frustrante, enfin, jusqu'à ce que je découvre une émission de Pierre Schaeffer, l'étude au chemin de fer, en disant mais oui, mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire la rencontre avec la musique concrète, qui m'a amené ensuite évidemment à rechercher auprès de tout ce qui s'est passé dans ces mêmes temps. Par contre, cela me donnait la possibilité de travailler seul, et entre autres avec mon synthétiseur. Mon synthétiseur, alors là, c'était le bonheur. Comme beaucoup de choses dans ma vie, il y avait des choses qui se sont passées comme ça, au moment où cela convenait. J'ai travaillé d'abord avec des sons électroniques dans les années 60, c'était les feedbacks des sons électroniques sauvages. Ensuite, avec mon merveilleux synthétiseur ARP 2500. Et à cette époque-là, de toute façon, quand un musicien me demandait de travailler avec moi, je ne voyais jamais deux fois. Et comme j'avais quand même en moi une certaine musique dont j'avais envie, et pour pouvoir l'entendre, il fallait que je me la passe. Voilà. Et donc, j'ai commencé à tâtonner avec les feedbacks, mais c'est là où j'ai découvert les éléments de base d'un vocabulaire de son tenu légèrement évoluant et de toute la gamme des battements rapides jusqu'aux pulsions lentes. Mais ça a constitué le premier vocabulaire et qui se fait tout à fait naturellement. Sur un grand bandeau en haut d'une salle, un peu comme un emakimono japonais, mais qui représentait les différentes longueurs d'onde connues, qui commençaient donc d'un côté à la longueur d'onde de la Terre au Soleil et qui allaient jusqu'à les micro. Mais là encore, on n'est pas sûr qu'il n'y en ait pas encore derrière. J'ai été prise d'une sorte de vertige mental, moral, spirituel, comme vous voulez. C'est la toute première impulsion ou inspiration. Ah, on reste là dans la sidération. Et dans la sidération, c'est magnifique, mais on ne peut plus faire grand-chose. Et donc, j'ai ramené ce vertige à ce qui nous est beaucoup plus accessible, à l'océan, qui lui également comporte évidemment depuis les grandes ondes, des grandes marées jusqu'au petit clapotis au bord de la plage.
Obwohl sie die elektronischen Stücke nie live aufgeführt hat, also mit Synthesizer vor dem Publikum, das hat sie nie gemacht. Im gewissen Sinne sind die Tonbänder sind diese Aufnahmen, Aufnahmen von einer Aufführung, halt in ihrer Wohnung und ohne Publikum.
Se propose, la plus simple est toujours la meilleure. Ça a été utilisé par beaucoup, beaucoup d'artistes, entre autres Miss Vandero, elle était un adepte de Simplest Best, et ça c'était la règle du jeu, je veux dire, là je parle de ce rapport avec l'instrumentiste.
Das hat vielleicht mit der Zeit zu tun, mit einer Empfindung der Zeit, die kontinuierlich ist, nicht abgebrochen ist. Das interessiert mich. Das finde ich sehr anregend. Eher als die Tatsache, dass die Musik sehr leise ist oder sehr fein und so. Die Veränderungen. Ja. Man muss sehr genau auf sie achten. Und das zieht einen rein, auch in diese in das Zeitgefühl. Thank you.
Jacques Cortis et le violoncelle. Là, c'était l'autre. Et ça a encore été, je crois que c'est une expérience extraordinaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette expérience qui commençait par ce solo, nous jouons ensuite avec Carole Robinson et Bruno Martinez est venu de soi, et bien entendu le trio. Et ce sont les trois nageurs là. Et donc je vous disais tout à l'heure qu'en effet, ils avaient été enregistrés, je crois que c'est à Dortmund. Et depuis ça continue.
Diese Begegnung streckte sich auch über einen längeren Zeitraum aus. Wir haben uns erst kennengelernt bei einem Konzert von mir in Paris, als ich damals für dieses Konzert nach Paris kam, habe ich zu allen meinen Freunden gesagt, ich möchte Eliane Radig kennenlernen. Bitte seht zu, dass sie in mein Konzert kommt. Und eins von diesen Freunden hat ganz zufällig und informell zu Eliane gesagt, ja Eliane, vielleicht sollte dein nächstes Stück ein Solostück für Charles sein.
Deux pièces sont totalement différentes, c'est-à-dire que je ne fais jamais deux fois la même pièce. Et les solos sont des pièces qui sont faites pour les personnes pour lesquelles je fais. Ils peuvent la transmettre eux-mêmes s'ils veulent, mais moi je ne la transmets pas une deuxième fois. Je ne veux pas faire deux fois la même chose. Mais à la base du langage que nous utilisons, ce sont les partiels. Toute nature, harmonique, subharmonique, des micro-battements qui s'opèrent en un deuxième plan. Et il n'y a que les instruments acoustiques pour avoir cette richesse. Un instrument acoustique, quand il est joué par un grand musicien, parce que ce travail que je redemande est un travail en fait de grande virtuosité, parce que c'est un travail d'un contrôle mais immense sur l'instrument.
Dann haben wir uns getroffen und wir haben was zusammen gegessen und sie hatte eine Zeichnung. Und diese Zeichnung war ganz leicht und bleich auf Papier, so gezeichnet mit Bleistift. Sehr rätselhaft. Eigentlich so eine geometrische Gestalt. Das sollte die Form von unserem Stück sein. Und da war ich sehr überrascht, weil das bedeutete schon, es wird ein Stück geben. Und dieses Stück hatte schon eine Form, jedenfalls eine Form, die sie auf Papier zeichnen konnte. Und dann meinte sie, ich kenne mich mit diesem Instrument überhaupt nicht aus. Sie müssen mir zeigen, was da möglich ist. Und ich sagte, okay, ich werde dann zu Hause ein bisschen ausprobieren und üben und ein paar Möglichkeiten aufnehmen. Ich habe dann Klänge aufgenommen, die für mich zu ihrer Klangwelt gehörten. Keine Komposition, das war kein Stück. Das waren Ideen, das waren Klangideen. Eins von diesen Klängen ist ein Klang, was bei jedem Cello vorhanden ist, aber bei jedem Cello auch ein bisschen anders vorhanden. Und das ist das, was man bei uns in der Cello-Welt den Wolfton nennt. Also, und das ist ein Ton, den man normalerweise versucht auszuklammern, zu töten. Dieser Klang gehört nicht in die geregelte Welt des Cello-Klangs, weil er hat eine Eigenschaft, er heult ein bisschen. Das ist ein Bereich, ich sage nicht ein Ton, es ist ein Bereich in dem Instrument, wo es plötzlich lauter wird. Und auf eine Weise, die ja sehr rau ist und sehr wild. Und deswegen sagt man, nehme ich an, Wolfton, der Wolfton. Jeder weiß, was das ist. Jeder Streicher weiß, ja, Wolfton. Und dieser Ton ist sehr komplex, ein bisschen wie eine Rückkopplung, like a feedback. Sehr schwer zu kontrollieren. Und ich dachte, das ist genau das, was zu ihrer Musik passt.
Thank you.
Ce qui était très important pour moi, c'était la distribution sonore de cette musique. Et surtout, alors, le contraire de dire qu'il faut vous mettre au centre parce que c'est là que vous entendrez le mieux, mais qui était au contraire de remplir l'espace sonore, quel qu'il soit, comme à Berlin dans ce théâtre, et que le public soit en somme comme dans la conche, comme à l'intérieur, dans le corps de l'instrument.
Die Aufführung entsteht immer in dem Moment der Aufführung. Radikal in dem Moment. Und deswegen kann es nicht aufgeschrieben werden, weil es ist in jedem Raum, an jedem Tag ein bisschen anders. Das, was das Instrument mir gibt, damit muss ich arbeiten. Und das ist je nach Klima, Wetterlage, Temperatur, Akustik im Raum, nach meiner Auffassung und so, ein bisschen anders. Was bedeutet für Sie auf der zweiten Ebene? Das bedeutet zum Beispiel, man geht von einem Klang aus und dieser Klang produziert einen Komplex an Resonanzen, die zu viel ist, also ein Überschuss an Resonanz. Dieser Überschuss besteht aus Partialtönen, aus Raumresonanzen, aus sympathischen Resonanzen. Das sind alles Dinge, die man physisch, akustisch nachvollziehen kann. Aber das sind Klangereignisse, die nicht mit der Klangerzeugung zu tun haben, sondern mit dem Nachhallen des Klangs, mit der Verbreitung des Klangs und nicht mit der Erzeugung. Und für mich ist es ein Merkmal ihrer Musik, dass die eigentliche Musik fast ausschließlich in diesem Nachklingen passiert und nicht in dem Erzeugen des Klangs. Und für sie ist das alles, was eigentlich primär ist, sekundär. Und alles, was sekundär ist, auf dem deuxième plan, auf der zweiten Ebene, das ist primär. Da entsteht die Musik. Und wenn man da hinkommt und sich im deuxième plan befindet, dann hört man wie sie. Dann ist man zusammen.
bien bavarder. Mais donner des grandes explications, je peux pas. Heureusement. Ça, c'était mon grand privilège. C'était mon grand privilège d'avoir... J'ai été mariée pendant quand même un certain nombre d'années à Armand, qui est devenu un artiste qui, lui, a très bien réussi, y compris sur le plan financier. Mais il y a eu un hiatus dans les années 50, c'est-à-dire quand j'allais au studio d'essai à Paris, nous habitions Nice. Et à cette époque-là, c'était relativement simple. Quand mes enfants étaient petits, je les prenais dans leur couffin, je les laissais chez mes parents, qui étaient ravis de grand paterner, grand materner. J'allais au studio d'essai. Les choses sont devenues un peu plus compliquées, même au début de la scolarité. C'est devenu tellement compliqué que j'ai eu alors vraiment des incidents limites qui se sont passés lors d'une de mes absences. Et que j'ai dû faire un choix. Ils étaient mieux à Nice. Et donc j'ai eu quand même, une scission de presque une dizaine d'années, pendant lesquelles j'allais de temps en temps, quand j'allais pour les vacances, quand j'allais chez mes parents, pendant laquelle, bah, justement, c'est la période où je pianotais. Je suis restée pendant presque 10 ans en dehors de cela, et quand nous nous sommes séparés avec Armand, il a eu l'élégance de continuer à assumer un mode de vie tout à fait honorable qui m'a permis justement de travailler sans avoir à devoir assumer la charge, les charges financières. C'était encore une de ses grandes chances. Et croyez-moi, le studio d'essai, alors là, c'était quelque chose. Si vous voulez, mon féminisme s'est surtout ancré dans le fait de ce que je voulais faire et de me donner les moyens de le faire. Et je vous rappelle à cet égard avoir eu aux États-Unis des discussions avec un mouvement féministe auquel j'expliquais qu'avec mon caractère, mon fichu caractère qui est à la fois très entier et peut-être, moi maintenant ça se calme avec l'âge, mais pouvait être quand même assez, de temps en temps, assez explosif, j'aurais été féminine, carrément, hein, vraiment, jusqu'au bout. Et je n'aurais fait que ça. J'avais choisi la musique, et donc je ne faisais que ça, mais que mon combat se bornait à ça. Et il y en avait une qui a eu l'élégance de dire « mais le fait que vous êtes est en soi un acte de féminisme ». Voilà, tout simplement. Je crois que ma musique n'a pas de sexe. Je n'ai pas l'impression. Laetitia, son amie, c'est la seule exception. Il n'y a que des exceptions. L'autre exception ayant été en 98, donc c'est pas tout à fait récent, mais pas tellement loin non plus, où j'avais été invitée à Mills College. Je voulais m'inviter pour 6 mois, mais 6 mois, ça me semblait un peu long. J'avais pas tellement envie. Mais où finalement, il y a ces invitations en résidence avec 27 étudiants. Et d'ailleurs, ben, je raconte toujours avec beaucoup de plaisir la manière dont Chris Brown m'a convaincue, parce que quand je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que j'aille enseigner là-bas, hein? Non. Mais je lui ai dit, alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Et il m'a dit la seule chose qu'il fallait dire, share your experience. Et donc, là, c'était encore un grand partage. Et alors, la réalisation en a été tout à fait extraordinaire dans tous les sens du terme, parce que nous avons travaillé pendant 3 semaines, Mills College, dans la baie de San Francisco, sur Oakland. Et le centre de musique est entouré. Il y a un endroit qui est presque comme un théâtre romain.
Was mir neu war, das war die Situation, in der ich gemerkt habe, ich höre dem Instrument zu. Das Instrument sagt mir was. Durch seine Eigenwilligkeit. Weil ich die Eigenwilligen, die Temperamentvollen, die Ungereimtheiten im Instrument gesucht habe. So habe ich gelernt, durch diese Musik, durch dieses Stück, dem Instrument zuzuhören.
Le parcours qui était d'une traversée, la traversée s'appelait d'ailleurs la traversée du labyrinthe, du labyrinthe sonore. Mais bon, c'est ça, ça a pris du temps. Comme je dirais, quelque part, et Occam Océan, eh bien, date de 1973, de cette rencontre avec ce fameux émaquis des longueurs d'onde. Et puis, bon, le temps. Mais le temps n'est plus un obstacle, mais le moyen qui permet la réalisation du possible. Et c'est pour ça que j'ai jamais été. Je suis vraiment très patiente, je crois. C'est un peu l'histoire du renard. Vous connaissez le renard du petit prince? Le renard du petit prince. Mais il faut qu'il y ait une heure, parce que là, mon cœur se prépare à t'accueillir. Je peux t'attendre. Et donc, on peut très bien être en retard avec moi, parce que c'est un moment où je me prépare.
Sie hörten als Ursendung Le Grand Partage von Clarisse Cosset mit Eliane Radig und Charles Curtis. Ton Hermann Leppich. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Kunstraum Savvy Contemporary und dem ZTM Festival 2019.